les jardinières.
Soyez les bienvenus chez les jardinières. On démarre une nouvelle année et on en profite pour vous la souhaiter fleurie, à défaut d'enneiger. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène, bonjour à tous.
Et c'est Jean-Pierre Ribaud qui a la chance d'ouvrir cette année 2023. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Merci d'être avec nous ce matin.
Les jardinières, c'est votre émission jardin du samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Cette année, l'hiver est très doux, peu ou pas de neige et des températures qui sont plutôt proches de celles du printemps. Jean-Pierre, est-ce que cet hiver spécial pourrait mettre en péril les futures récoltes de fruits, par exemple ?
Alors non, encore pas, parce qu'on est d'accord qu'on a eu un bon coup de froid fin décembre, et puis qu'on a ce petit radeau qui est là. On peut pas dire que la végétation se développe énormément à cette période, parce que on a quand même l'humidité qui est là, les nuits sont très longues, et puis les journées courtes, et puis évidemment, ça ne motive pas la végétation à partir en pousse. On a quelques éléments comme le noisetier qu'on a vu avec passablement de pollen déjà qui est présent, mais non, au niveau de la mise à fruit, au niveau des éléments fruitiers, on peut pas dire qu'on a eu de la casse jusque-là, malgré même le givre qu'on a eu fin décembre là. C'est même des éléments protecteurs quand il fait très froid. C'est très bien que soit la neige, soit la glace protège de descendre au-dessous de moins 2, moins 3 les éléments fruitiers. Donc aucun souci jusque-là.
Et pas d'autres problèmes pour la végétation, parce que là, ils annoncent de la neige la semaine prochaine.
Alors non, aucun problème. On peut même profiter de faire encore des super plantations en ce moment, malgré l'humidité qui est. Et puis la neige qui arrivera va soit faire une protection, soit va endormir toute cette petite végétation. Mais on n'a aucun souci avec ces éléments au mois de janvier, même février.
Alors ça va. Merci Jean-Pierre. Vous restez avec nous jusqu'à 8h. Vous allez répondre aux questions de nos auditeurs. Pour poser vos questions jardinage, vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute, remplir le formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières, ou alors nous envoyer un SMS. Vous tapez tout d'abord jardin et puis vous laissez un espace, votre question, votre petit nom, et vous nous l'envoyez au 939.
Et après une pause musicale, nous parlerons des plantes grimpantes.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, Jean-Pierre, vous allez tout nous dire sur les plantes grimpantes, ces plantes qui apportent une dimension verticale à notre jardin, sans pour autant prendre toute la place. Alors Jean-Pierre, comment on fait pour choisir tout d'abord le support pour une plante grimpante ?
Alors, il y a plusieurs manières pour ça. Il y a soit la clôture, parce qu'on a décidé de faire une palissade, soit on a une pergola et puis on va essayer de faire grimper une plante grimpante sur les angles pour faire un abri du soleil. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse qu'on pourrait poser comme question. C'est quel est l'objectif futur d'une plante grimpante sur une structure ? Et puis après, eh bien, ça permet d'analyser les choses. Ça veut dire, si vous avez une palissade de béton qui est horrible et puis que vous avez envie de la protéger, de la cacher, eh bien, ça vaut la peine de soit mettre une plante qui s'agrippe par elle-même ou une plante sur laquelle il faudra une structure. Ou bien alors, comme je vous dis, une palissade d'une haie, parce que maintenant, bien sûr, on sait que ces haies sont en perdition, et puis l'avantage d'une clôture et puis d'une plante grimpante dessus vous fait une palissade très hermétique et décorative, et puis qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Et puis si vous avez décidé juste de faire de la déco, eh bien ça peut être un simple parasol métallique dans lequel vous planterez un rosier grimpant qui vous fera une super décoration au milieu de votre espace. Oui, il y a beaucoup de possibilités, donc c'est du cas en cas, selon les couleurs et les choix et les buts, oui.
Et en été, il fait de plus en plus chaud, et en hiver, froid. Est-ce que les plantes grimpantes peuvent jouer un rôle sur l'isolation des maisons ?
Non, alors non, en tout cas pas au niveau des milieux bâtis. Bien sûr que ça peut ombrager des espaces sous lesquels on peut mettre des bancs, des tables, et puis y passer des après-midi. Mais en tout cas au niveau du bâti, non. C'est plutôt quelque chose qui va à long terme même poser des fois soucis, et puis il faudra un entretien par rapport à ce futur-là. Mais on peut pas dire que ça fait une protection soit contre le chaud, soit contre le froid sur du bâti ou autre.
On parlera justement de l'entretien de ces plantes grimpantes en deuxième partie. On va parler un peu de soleil, même si là on est en plein hiver, est-ce que certaines plantes grimpantes, elles aiment le soleil et on peut par exemple imaginer de couvrir une façade plein sud avec des plantes grimpantes et elles ne vont pas griller au soleil ?
Oui, alors bien sûr, les plantes grimpantes, elles sont même quasi toutes adaptées à une exposition plein sud. On aurait plus de problèmes pour implanter des grimpantes dans un milieu nord très humide, très ombragé. Et puis, plein soleil, c'est là qu'elles s'épanouissent le mieux, en général. Et puis, on n'a pas trop de problèmes pour les implantations. On aime bien avoir quand même un sol frais, profond, pour justement favoriser un enracinement puis un super développement. Et puis pour le reste, aucun problème.
Mais est-ce qu'au contraire, certaines plantes grimpantes peuvent parfaitement aussi se développer dans les coins d'ombre ?
On en a peu. On a les plantes de terre de bruyère, comme les hortensias, qui supportent l'ombre. On a le jasmin qui pourrait aussi se développer dans ces milieux ombragés. Par contre, ce n'est pas des essences qui viennent très très grandes. C'est plutôt de la décoration pour des hauteurs d'un mètre, un mètre cinquante. Pour ce qui est des autres plantes grimpantes, si vous aviez une façade totalement en or et puis que vous avez quand même envie de la masquer, il serait plus judicieux de planter le plant sur le côté sud, sud-ouest ou à l'inverse, et puis en tout cas pas côté nord, et puis faire venir les branches à l'arrière du bâti pour englober le bâtiment. Là, vous aurez plus de succès parce que la plante est plein or, c'est pas un élément qui facilitera vraiment l'implantation de ces plantes en général.
Ah, donc ce qui est important, c'est où naît la plante en fait, pas oui. Où elle fleurit si on veut.
Alors les deux, mais en tous les cas, le démarrage du plant, il faut qu'il soit au niveau soleil, luminosité, et puis qu'il ait déjà un bon volume feuillé sur la partie soleil. Et puis cela permettra d'entretenir la partie qui devra se développer côté nord, où on aura moins de luminosité. On aura une petite différence de coloration au niveau de l'automne, si on a une plante de ce genre, parce que du côté nord, les feuilles vont moins colorer au niveau des couleurs automnales, comme on les connaît, dans les jaunes, orangés, rouges. Par contre, côté sud, eh bien, on a des fois des superbes couleurs automnales, justement données par les lumières et les températures.
Merci Jean-Pierre, on va se retrouver dans quelques minutes. Vous nous donnerez quelques conseils, quelques bons conseils même, pour bien entretenir nos plantes grimpantes.
7h, 8h, les jardinières.
Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, est notre invité. Ce matin, nous parlons des plantes grimpantes. Nous allons parler de leur entretien. On connaît tous le lierre qui grimpe et s'attache partout. Il paraît invincible. Alors Jean-Pierre, à part le lierre, est-ce que vous avez quelques exemples de plantes grimpantes à conseiller à nos jardiniers amateurs ?
Oh oui, bien sûr, il y en a une quantité. Encore une fois, le but, c'est le but recherché qui va définir la grandeur du volume qu'on pourra planter. Ça veut dire grande façade permettra d'implanter des plantes, des vignes vierges, les parthenocissus qui peuvent s'agrapper d'elles-mêmes ou avec les vrilles. Ou bien vous pourrez y mettre des tradescantiens. C'est aussi une plante qui arrive à s'agrapper d'elle-même sur cette façade. Et puis si la structure est plus petite, et bien évidemment, on va chercher une plante qui se développera moins pour limiter vraiment les entretiens, parce que en général, les grands végétaux qui se développent sur ces grandes façades poussent tellement que sur une clôture par exemple d'un mètre cinquante de haut sur 3 mètres de long, on sera obligé d'intervenir 2-3 fois dans l'année pour la taille. Donc l'entretien sur ces sujets, il peut être dense. C'est propre à chaque végétal. Par exemple, un rosier, on sait très bien qu'il faudra lui faire une taille annuelle pour optimiser la floraison de l'année d'après. Et puis le tradescantien, eh bien, comme il fait des pousses d'un mètre à 1,20 m, il faudra les sectionner à la hauteur de la façade pour ne pas avoir une façade qui vienne trop large. Le lierre, idem, on n'aime pas avoir des lierres qui viennent trop en porte-à-faux ou sur des façades ou sur des clôtures, parce que le poids va permettre à un moment donné, va provoquer l'arrachage du végétal ou la casse de la structure. Donc c'est vraiment propre à chaque élément, propre à chaque végétal, l'entretien est relatif.
Et Jean-Pierre, ces plantes grimpantes, elles grimpent toutes seules ou il faut les guider au fur et à mesure de leur croissance ?
Alors ça dépend de la structure sur laquelle pousse cette plante. Si vous avez décidé par exemple une palissade végétalisée avec du lierre, eh bien là le lierre par exemple, il faudra le palisser les premières années dans le grillage pour lui permettre de se tenir par lui-même dans le temps.
Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer le terme palisser ?
palisser, ben c'est l'action de verdir un grillage avec un végétal. On va chercher à nouer ce végétal dans le grillage. On aime bien alors des grilles soudées pour permettre cette structure portante, parce que si vous mettez un grillage simple, avec le temps et le poids du végétal, il y a risque que ça s'affaisse, que ça casse, et puis que vous deviez recommencer à zéro. Mais c'est vraiment le fait de créer une palissade hermétique, visuelle, principe d'une haie pour se calfeutrer sur un espace. Alors après, ça peut être aussi tout le tour d'une propriété qui pourrait être fait en remplacement d'une haie de tuyade, de charme ou autre. L'amontage du lierre ou de la vigne, eh bien, en tout cas pour le lierre, il est persistant. Et puis son entretien est super facile. Une fois que le lierre a palissé, justement rempli ce grillage, l'entretien c'est juste un coup de taillet dans l'été. Ça ne pousse pas très, très fort, donc c'est facile à l'entretien. Si en plus au niveau de la haie, de la taille, vous êtes maladroit puis que vous créez un trou avec votre taille, et bien évidemment l'année d'après, le lierre il repousse tellement vite que vous n'aurez jamais les problèmes que vous pourriez avoir avec une haie de tuyat, de sapin ou de if. Et puis après, si vous avez sur des façades, puis que vous voulez aussi mettre une palissade métallique parce que vous avez une plante qui ne va pas s'agripper d'elle-même, principe d'une clématite, et bien là vous prendrez soin de laisser un espace entre la façade et le grillage pour permettre aux clématites de grimper, ou aux hortensias ou autres.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On a encore quelques questions à vous poser sur ces plantes grimpantes. On va y revenir après la pause musicale, météo et inforoute. On va justement parler un peu des tailles et aussi de l'arrosage de ces plantes grimpantes. Ça sera dans quelques minutes.
7h, 8h, les jardinières.
Deuxième partie des jardinières. Ce matin, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Et Jean-Pierre
oui, absolument.
Est là pour répondre à vos questions jardinage, c'est ce que vous deviez dire, Brian.
Exactement, mais je suis là, ne vous inquiétez pas.
Bon, Jean-Pierre, on
va la reprendre, Jean-Pierre il est là pour répondre à nos questions jardinage justement. On les attend par téléphone au 0900 70 20 20, et la chance de parler en direct avec Jean-Pierre. Vous pouvez également remplir le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières. Avec la possibilité de joindre une photo ou par SMS, vous tapez « jardin », un espace suivi de votre question et de votre petit nom. Puis vous nous envoyez ce message au 939.
Jean-Pierre, avant de se lancer dans les questions des auditeurs, on parlait en première partie des plantes grimpantes. Et on voulait encore savoir quelques petites choses sur ces plantes grimpantes. Est-ce qu'on peut faire grimper ces plantes partout ? Vous avez beaucoup parlé de façades de maisons en première partie. Ça pose, niveau bâtiment, est-ce que ça peut être mauvais pour la maison ? Pas pour la plante, mais pour la maison.
Alors mauvais, pas forcément. Le problème, c'est que selon la plante que vous aurez choisie pour tapisser une façade, si c'est une de ces Parthenocissus à ventouse qui s'agrippe par elle-même, et puis qu'un jour vous aurez décidé de supprimer cette plante grimpante, il sera terriblement compliqué d'enlever ces ventouses qui se seront agrippées à la façade. Et puis, si vous décidez de refaire une fois cette façade, il faudra presque décrépir ou remettre un enduit par-dessus le crépi, parce que ce petit élément de bois, il est tellement coriace une fois qu'il a pris pied dans la façade que vous n'arriverez pas à l'enlever. Et puis selon encore, si vous avez une grande plante grimpante qui monte par exemple sur un pilote, sur une chenot comme une glycine ou un tradescantia, c'est des végétaux qui poussent tellement fort, qui ont tellement de puissance, qui pourraient à un moment donné soit faire de la casse au niveau de la structure porteuse si c'est pas assez solide. Et puis il faut aussi se prémunir qu'il n'y ait pas des entrées dans des corniches ou sous des tuiles ou dans de la toiture, parce que si vous ne portez pas garde à ça, ce qui va arriver, vous aurez des entrées d'eau par rapport à la toiture. Vous ne voulez pas les découvrir très vite, parce que bien sûr cette végétation, quand il pleut, ben, tout est mouillé, et puis ça pourrait occasionner des dégâts supplémentaires. On ne peut pas dire après que c'est des plantes qui peuvent prendre racine en façade dans des failles, dans des espaces, parce que c'est pas des plantes qui racinent facilement sur le long du végétal. Et puis, si vraiment vous aviez décidé de palisser une façade et puis de ne pas avoir ces dégâts-là, Alors bien sûr, toutes les plantes ne se supportent pas d'elles-mêmes, et puis souvent on met des fils, soit on fait des treilles, soit on tend des câbles. Il y a toujours une bonne manière pour poser une plante grimpante. Ce qu'il faut aussi relever ici, c'est que les façades, c'est des éléments super intéressants. Si un jour vous décidiez de mettre une petite culture de kiwi ou de vigne, du raisin, on sait que les façades en été emmagasinent une quantité de chaleur qui redonne cette chaleur durant la soirée, durant la nuit, et puis kiwi, raisin adore ces éléments-là pour avoir une quantité de sucre et puis venir à maturité.
Et puis on imagine que notre plante grimpante, elle prend de l'ampleur. Est-ce qu'il faut la tailler? Si oui, comment, quand? Expliquez-nous tout ça.
Alors oui, bien sûr qu'il y a une taille qui est donnée. Il faut surtout contenir la plante grimpante par rapport au gabarit de la structure porteuse, pas la laisser déborder ou venir en hauteur ou retomber en avant. Et puis si vraiment ça prend trop d'espace sur la largeur, il faut absolument la tailler pour diminuer cette largeur, pour éviter les arrachages du végétal. Parce qu'une fois que vous auriez du givre ou de la neige et puis que le porte-à-faux serait trop conséquent, alors bien sûr, c'est des structures, enfin les plantes grimpantes, c'est des végétaux qui arrivent à plier facilement. Puis le fait de plier, ça va vous donner beaucoup de poids en aplomb qui va presque provoquer l'arrachage de ce végétal en façade. Et puis bien sûr, soit occasionner du dégât sur façade, soit dégrader vraiment le végétal, ce qui est dommage. Et puis après, il y a d'autres plantes grimpantes qui demandent des tailles chaque année, comme le kiwi par exemple. C'est aussi une plante qui fleurit sur le bois de l'année, comme la vigne bien sûr. Donc ça, c'est des plantes qu'on va tailler chaque année, principe de la culture fruitière, pour provoquer également cette mise à fruit. Vous avez la clématite, eh bien c'est la même chose. Une clématite, on sait qu'on la taille en gros à 50-60 cm à l'automne par rapport au démarrage du plant, parce qu'elle pousse sur l'année, elle s'épanouit sur l'année, et puis à l'arrière-saison, eh bien tout le matériel végétal qui se serait développé avec les fleurs ne va pas repartir l'année d'après. Et puis comme c'est aussi une plante qui va fleurir sur le bois de l'année, plus elle va pousser, et puis plus votre clématite sera embellie de quantité de fleurs.
Alors, on a parlé de la taille, on va parler un peu de l'arrosage également, Jean-Pierre. Est-ce que ces plantes grimpantes ont besoin d'engrais, par exemple, dans le rot, ou elles poussent toutes seules, la plupart ?
Alors l'entretien des plantes grimpantes en général, il est assez facile parce qu'ils sont souvent plantés dans un milieu nature, ça veut dire pas dans un pot, pas dans un bac. Et puis pour autant que vous ayez un sous-sol qui est de qualité, hein, pas le planter dans un lit de chaille, dans un lit de groise en bordure de façade où le génie civil aura fait un remblayage pour poser une assise en dur. Si vous avez une bonne poche de terre, il est facile d'entretenir la plante grimpante. Alors bien sûr, quand on a des étés caniculaires comme l'été passé et puis que vous avez envie d'en plus qu'elle se développe aisément, vous pouvez lui amener de temps en temps un peu d'eau. Vous pouvez mettre un mulch de compost en paillis pour éviter la mauvaise herbe au pied, ou de l'engrais, de l'adjonction liquide ou granulé ou chimique ou bio, c'est égal. Bien sûr que ça reste une plante qui peut être gourmande si vous voulez vraiment qu'elle s'épanouisse et puis qu'elle donne un maximum de pousses et de fleurs.
Puis pour vous, Jean-Pierre, c'est laquelle la plus belle des plantes grimpantes, et puis pourquoi ?
Mais elles sont toutes belles, je crois. Elles ont toutes des qualités assez incroyables. Ça veut dire le Tradescantia, par exemple, avec sa multitude de clochettes oranges en fleurs durant l'été, c'est splendide. La clématite a un autre gabarit parce qu'elle vient bien moins haute, mais avec la quantité de variétés de cultivars qu'on a, eh bien les formes, les couleurs, les sortes de fleurs, l'épanouissement est fantastique. Le lierre, quant à lui, eh bien si vous avez décidé de prendre celui qui fait les fleurs, eh bien vous aurez une multitude d'abeilles, et puis la décoration avec les graines, les boulettes qui viennent rouge violacées, c'est superbe. Si vous voulez pas ce lierre parce que vous avez des angoisses au niveau de l'abeille, et bien vous pouvez mettre la variété qui ne va pas vous faire les fleurs et puis qui va s'épanouir et puis faire une super palissade. Le kiwi, c'est une super plante parce que je trouve que c'est super joli au niveau de la mise à fruit. Le fruit est super intéressant, au même titre que la vigne. Après, quand on pense aux vignes vierges, celles qui s'agrappent d'elles-mêmes ou sur ventouses, ouvries, sur façade, les couleurs automnales sont juste fantastiques parce que du vert, elles vont passer par toutes les couleurs avant de tomber. Donc toutes, elles ont toutes une super qualité, je dirais intéressante, par rapport à l'endroit choisi puis les souhaits de chacun.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc on n'hésite pas à se lâcher sur les plantes grimpantes, c'est très joli. On va se retrouver dans quelques minutes pour répondre aux questions de nos auditeurs. On va parler d'ailleurs d'un avocatier.
7h, 8h, les jardinières.
7h46, en compagnie des jardinières. Vous pouvez encore poser vos questions durant quelques minutes. Et Brian, vous allez nous rappeler comment faire.
Et vous avez trois possibilités pour nous poser vos questions, soit par téléphone 0901 70 20 20. Vous aurez la chance de parler en direct avec notre spécialiste, aujourd'hui c'est Jean-Pierre. Vous pouvez également remplir le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Vous aurez la possibilité de joindre une photo ou alors vous pouvez le faire aussi par SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre petit nom. Puis vous envoyez ce message au 939.
Et en parlant de photos, c'est ce qu'a fait Jeannette de Bienne. Elle nous a envoyé une photo de son avocatier. Et elle nous dit « Bonjour, j'ai un avocatier dans mon salon et il ne pousse plus. Aurait-il un pot trop petit ?» Merci d'avance pour votre réponse. Alors Jean-Pierre, vous avez la photo sous les yeux. On va peut-être commencer par la décrire rapidement.
Oui, voilà Jeannette, effectivement, vous avez un superbe avocatier dans votre espace. La photo est vraiment donnée. Le feuillage semble en super santé, vous avez beaucoup de chance parce que ce n'est pas toujours tout simple dans un appartement d'avoir une plante de ce type avec l'épanouissement qu'elle a. Après, il faut savoir que bien sûr, à cette période, ce n'est pas une période super propice pour le développement des plantes d'intérieur parce qu'on chauffe, on tempère, l'air vient sec, les journées se raccourcissent également. Et puis la plante sait très bien que cette période n'est pas une période propice au développement. Quand même que par rapport à la photo, le pot ne semble pas très très grand et puis ça vaudrait la peine de la rempoter. C'est la très bonne période pour le faire parce qu'en plus, comme j'ai dit, eh bien, elle est plutôt dans une situation végétative latente, elle n'est pas en grand développement parce qu'elle sait très bien que voilà, il fait chaud, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc la transplanter maintenant est la très bonne période. Et puis au printemps, vous devrez avoir un redémarrage facile de cet avocatier. N'oubliez pas quand même, malgré le rempotage, de faire une adjonction, un rajout d'engrais une fois par tous les 15 jours, voire 3 semaines, soit du bio, soit de l'engrais liquide que vous trouvez dans le commerce. En tout cas, ne changez pas l'habitude que vous avez eue jusqu'à maintenant parce qu'il est vraiment d'un verre flamboyant et puis continuer comme ça, il n'y a pas de problème. C'est juste le rempotage et puis savoir que cette période n'est pas propice au développement vraiment et puis que d'ici un mois et demi, deux mois, eh bien, il va repartir en pouce avec ce rempotage.
Et puis merci beaucoup Jean-Pierre. On a une deuxième question de Bluette de Payerne suite à la sécheresse de mon gazon. Il pousse uniquement des trèfles rouges. Je les ai traités 3 fois mais il repousse toujours. Car les racines sont très profondes, comment s'en débarrasser, car il y en a toujours plus.
Oui, alors le problème que vit cette dame, effectivement, il a été général l'année passée, surtout dans des espaces où le terrain n'était pas de qualité et puis où la graminée n'a pas supporté la canicule. Après, la dame, elle dit qu'elle a fait une intervention chimique sur cette envahissante qu'elle ne souhaite pas. Alors c'est peut-être la qualité du produit qui fait que ça n'a pas été efficace. Ce n'est en tout cas pas la profondeur des racines qui fait que le produit n'a pas été efficace. Parce que le chimique qu'on utilise pour les sélectifs dans les pelouses, c'est un produit systémique qui va rentrer par les feuilles et puis qui va être véhiculé par la sève et faire périr l'ensemble du végétal. Donc c'est plutôt soit une mauvaise utilisation du produit phytosanitaire. Il faut aussi savoir que quand il fait très chaud, il faut traiter soit très tôt le matin ou encore mieux très tard le soir, parce que durant l'été il y a une quantité durant la journée, je veux dire quand il fait très chaud, il y a une quantité d'évaporation de produits qui peut même causer des problèmes aux végétaux avoisinants parce que cette molécule s'évapore. Et puis si vous avez des rosiers ou des choses comme ça en bordure de massif de pelouse, et eh bien vous pourriez avoir des gros dégâts. Donc pour optimiser un maximum cette utilisation de phyto, traiter tard ou tôt le matin, surtout ne jamais surdoser le produit, parce que le produit il a été calculé à l'utilisation avec un pourcentage d'eau qui est indispensable à son utilisation. Ça veut dire que si vous mettez une surdose de produit, vous pourriez nuire à la qualité de l'efficacité du produit. Et puis à partir de là, ce trèfle, comme elle dit, doit arriver à périr, à disparaître. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si vous faites un traitement sélectif sur une pelouse où il n'y a déjà pas de graminées, automatiquement il va repousser des choses derrière. Et puis ce qui va repousser, c'est les plantes qui s'épanouissent, telles que justement ces invasives. Alors, quand on fait un chimique, en général, on fait aussi un sursemis de pelouse avec une adjonction d'engrais et puis un arrosage derrière pour justement coloniser le sol, éviter l'arrivée des lumières sur la terre qui est dégarnie. Et puis, si la pelouse arrive à s'établir, densifier au niveau du sol, eh bien, elle va couper court à tout ce redémarrage de plantes indésirables que vous ne souhaitez pas dans la pelouse.
Et on aura certainement l'occasion de reparler de gazon en compagnie des jardinières jusqu'au moment où on pourra se prélasser dessus. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite et la fin des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Ce petit moment de flottement où on ne sait plus où on se trouve, tellement on y est bien, voilà. Et pourtant, c'est déjà la fin de notre heure de jardinage. Jean-Pierre, avant de vous laisser filer, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end au jardin avant le retour de la neige annoncée dès demain par Météo News ?
Oui, eh bien, si on a une fenêtre de soleil cet après-midi puis qu'on a envie de s'oxygéner les poumons dans l'espace qui nous est donné du potager, on peut tailler les petits fruits, on peut tailler les framboisiers, on peut attacher le massif de framboisiers. C'est tous des éléments qui sont en situation dormante et puis qu'il faut entretenir à cette période. Parce qu'au printemps, quand les beaux jours reviendront, on aura tellement à faire ailleurs qu'on n'aura plus le temps de s'occuper de ces petits fruits. On peut aussi, si vous avez des myrtilles, eh bien, rajouter de la tourbe, faire une adjonction et puis un peu de thym. Si vous n'avez pas de myrtilles, vous pouvez encore les planter, c'est la super période. Et puis sinon, au niveau légumes, il y a encore un petit peu de prélèvement dans les choux de Bruxelles, 2-3 laitues qui peuvent encore traîner, qui peuvent être prélevées, ça vaut la peine. Et puis pour ceux qui ont des fruitiers, ben eux, ils peuvent se mettre vraiment à la taille, c'est la super période. On est encore un peu précoce pour les interventions chimiques, les huiles dormant pour enlever tous les parasites qui seraient hivernants sur le végétal. Mais tout celui qui a envie arrive à passer quelques heures de bonheur dans son espace, puis à trouver de l'occupation. Donc voilà.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures au jardin. Bon week-end.
Merci et bon week-end à tout le monde.
Merci Jean-Pierre. Les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuves. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions en tout temps, soit en remplissant le formulaire sur notre site, soit par SMS. Vous pouvez aussi réécouter notre émission. Ce matin, nous avons parlé des plantes grimpantes. Ça sera dans le courant de la matinée sur notre site, toujours sous l'onglet émission. Les jardinières, bon week-end Brian.
Bon week-end, Mylène.
Et puis on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission des jardinières dès 7h. Ciao.
7h, 8h, les jardinières.